Bonjour à tous, merci d'être sur RDL, vous êtes bien sur le 103.5 FM, nous sommes actuellement le 13 juin avec Peggy, bonjour Peggy.
Bonjour Yann.
Et actuellement avec Peggy, mais aussi Juste, nous avons ainsi rencontré plusieurs associations dans le cadre de la manifestation Association en Fête à la Maison des Associations de Colmar, et vous retrouverez plusieurs associations et des interviews, parmi lesquelles l'association colmarienne Sauvetage Secourisme, l'association Théâtre Animation Colmar, l'ATA, mais aussi la Société Philatéliste de Colmar, ainsi que l'Office Municipal de la Culture, France Parkinson et Scrabble Club Colmar. Et nous commençons tout de suite avec l'Office Municipal de la Culture de Colmar pour cette série d'interviews et de rencontres avec toi, Peggy.
Dans la joie et la bonne humeur, toujours.
Et nous sommes avec l'Office Municipal de la Culture avec les vice-présidents Michel Frolinger et Sophie Rochdy. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour avec Peggy et Juste.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association, donc l'Office Municipal de la Culture?
C'est l'Office Municipal de la Culture. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce que certains croient, on ne fait pas partie de la mairie de Colmar, même s'il y a le mot municipal. Simplement, on est sur le même périmètre d'activité, et donc on est un petit peu l'association qui fédère, qui regroupe les associations. On a plus d'une centaine d'associations qui sont adhérentes, donc les associations adhèrent ou n'adhèrent pas, hein, il n'y a aucune obligation. Donc il y a plus d'une centaine d'associations qui sont adhérentes à l'OMC, c'est-à-dire qui versent une cotisation qui est, voilà, et qui profite.
Et quel est le montant de la cotisation annuelle?
Donc, le montant actuel, c'est 40 euros par an. Et ces associations profitent en fait de la structure de l'OMC. Donc la structure de l'OMC, c'est une structure qui accompagne les associations adhérentes avec des moyens logistiques, notamment on a une photocopieuse, parce qu'il y a des associations qui ont leurs propres moyens, il y a des associations qui n'ont pas leurs propres moyens. Donc nos bureaux sont ouverts tous les jours du matin et après-midi, et on a une secrétaire qui est donc là les matins, ouais. Donc elle est à mi-temps, et cette secrétaire accompagne les membres des associations qui souhaitent donc notamment utiliser la photocopieuse. Ce qui est important aussi, c'est qu'on a des moyens d'accompagnement. Par exemple, nous organisons des formations. Et c'est d'ailleurs un des points très importants de l'OMC. Nous faisons quelques séances de formation, notamment avec Alsace Mouvement Associatif. Il y a des formations qui sont ouvertes aux associations membres mais pas que. Il y a des gens qui viennent pour les assister aux formations qui ne font pas forcément partie des membres adhérentes de l'OMC. Alors, ce sont surtout des formations qui sont destinées, il y a des formations de comptabilité, pour organiser des assemblées générales, parce que là, pareil, les grosses structures, il n'y a aucun problème, mais les petites structures, souvent, ne savent pas. Et on se rend compte que y a quand même un aspect juridique pour les assemblées générales, hein, parce que normalement il y en a une qui est obligatoire par an. Donc ces formations, il y a des niveaux de formation comptabilité, par exemple premier et second niveau, qui concernent les trésoriers, mais pas que, parce qu'une association où la trésorerie a du mal, où le trésorier ne gère pas les outils qu'il devrait avoir, c'est une association qui quelque part est en danger. Donc nous, l'OMC, on propose des sessions de formation gratuites. D'accord. Par contre, alors, il y a des sessions où il y a plus de candidats que de potentiels, hein, d'accueil, notamment en matière de sécurité dans notre salle. Et là, effectivement, on priorise les membres adhérents, ce qui est normal. Mais très, très, très souvent, il y a des gens qui assistent à ces formations qui ne sont pas forcément adhérentes à l'OMC.
Et c'est pareil,
comme nous-mêmes, nous ne payons pas les formateurs. Donc voilà, nous, notre intérêt, c'est que ces sessions de formation soient complètes.
Il y a du secrétariat, alors, par exemple, pour les secrétaires, tenir une réunion.
Il y a tous les thèmes. En fait, c'est tous les thèmes qui permettent aux associations de fonctionner.
Il y a aussi tout ce qui est juridique, les conseils juridiques qu'on peut apporter aux associations pour faire leur statut, pour créer une association ou la dissoudre des fois. Enfin, voilà.
Pour fédérer une équipe, ça, parce que dans le milieu associatif, c'est difficile.
Alors, ce sont des... Ah oui, oui. En en fait tout, parce que c'est important de savoir fédérer,
oui.
Parce que on sait parfaitement, surtout dans le monde culturel, qu'il n'y a pas forcément foule de jeunes, de nouveaux bénévoles qui intègrent ces associations.
Quelles sont vos difficultés que vous rencontrez ?
Nos difficultés sont en fait les difficultés des associations membres de l'OMC. Or, les difficultés actuelles, c'est le rajeunissement des cadres, c'est-à-dire des bénévoles. La moyenne d'âge est très élevée, ce qui met également un petit peu en péril l'objet même de ces associations. Et c'est pour ça il y a un stand de speed dating.
Ça m'intéresse.
Tout à coup. Par les organisateurs, par la ville de Colmar, la ville de Colmar est notre principal contributeur financier. Parce qu'en recettes propres, nous avons donc la contribution, la subvention de la ville et les recettes de la photocopieuse. Comme nous ne sommes pas une association qui organise des fêtes, des événements qui souvent sont payants. Nous, on n'a pas ces rentrées.
D'ailleurs, je pensais que c'était vous qui avez organisé cette journée.
Non, pas du tout.
Locataire de ces bâtiments.
Auprès de la ville, nous sommes effectivement. On est un relais entre la mairie et les associations. Donc, on a un site internet également qui est régulièrement mis à jour, où on trouve donc l'ensemble des manifestations. C'est-à-dire, si une association qui veut créer un événement, elle le crée, donc elle fait une publicité par ses propres moyens, mais elle peut aussi passer par nous, c'est-à-dire en mettant sur le site internet. Et là, on est relais. C'est-à-dire que comme tout le monde peut aller sur le site de l'OMC, il voit toutes les manifestations qui ont lieu, par exemple, un week-end A, B ou C.
Donc, vous soulevez les problèmes que vous rencontrez avec les associations à travers de la ville de Colmar.
Alors, oui et non, parce que souvent, les associations, alors là aussi, les grandes associations n'ont pas forcément besoin de notre appui. Mais beaucoup sont adhérentes parce que, elles souhaitent apparaître au sein des adhérents de l'OMC. Mais les toutes petites associations, ce ne sont pas des professionnels, mais des gens qui s'y connaissent en trésorerie, en aspect juridique, là on peut les aider. Et quand elles ont un souci, elles s'adressent souvent à nous avant de s'adresser à la mairie.
Et vous, vous êtes salarié alors ?
Non, il n'y a aucun salarié à l'OMC.
Okay. Et alors, ça fait combien d'années que vous êtes bénévole ?
Sauf la secrétaire, donc, qui est à mi-temps, mais qui est donc payée par nous.
Et pour répondre à votre question, dans le comité directeur de l'OMC, il y a 4 représentants de la ville. Donc, effectivement, le lien se fait aussi par ce biais, quoi, lors des réunions du comité.
Et donc, vous, ça fait combien d'années que vous êtes bénévole ?
Moi, ça fait la 6e année. Après le Covid, c'était fini, donc c'est la 6e année.
Et est-ce que vous remarquez une recrudescence des mouvements associatifs ou plutôt une perte ?
Globalement, c'est pas vraiment. On est plutôt dans une phase de perte. Il y a des associations qui disparaissent. Qui disparaissent pour des raisons qui peuvent être diverses, mais dont la principale, c'est le non-renouvellement de leurs adhérents.
C'est un de nos plus anciens bénévoles et justement...
RDL, juste.
Oui, chez RDL, oui.
Et ça fait 34 ans que je suis, et donc voilà, mais la parole c'est plutôt pour vous, moi.
C'est un exemple réel et malheureusement un exemple qui se reproduit assez souvent. Il y a des associations qui disparaissent, mais parce qu'il n'y a plus de membres
bénévoles,
on va dire entrants, alors que les bénévoles sortants, on va dire des sorties naturelles.
C'est une jeunesse qui ne veut pas s'engager aujourd'hui, et toutes les associations ont des difficultés aujourd'hui, qu'ils soient radio.
Alors les associations sportives, elles touchent un public qui est globalement plus jeune. Donc ils ont une problématique qui est un petit peu différente de la nôtre. Mais le monde de la culture, puis c'est un monde, nous le PINS, on est un petit peu, vous savez bien que les mairies qui sont globalement les plus grands contributeurs souvent de certaines associations, les subventions actuellement ne sont pas en augmentation, c'est le moins qu'on puisse dire.
C'est plutôt l'inverse.
Ça met également financièrement en cause l'existence même de certaines...
De l'association.
Les associations en péril et la culture encore plus.
Oui, donc nous, notre rôle aussi, c'est un petit peu d'insister auprès de la mairie. S'il y a des associations qui sont un petit peu en difficulté parce que pas assez soutenues, financièrement, parce que nous, on n'a pas de budget pour soutenir les associations. Oui. On a très peu de rentrées, donc notre budget principal, c'est ce que je disais, c'est la subvention de la ville. Le message à passer, c'est ce genre de journée, c'est le meilleur moyen de faire passer des messages. Parce que là, il y a des gens qui vont venir, hein, qui connaissent, qui font partie eux-mêmes d'associations, qui connaissent ce système. Mais il y en a d'autres, peut-être par curiosité, ils se disent, tiens, qu'est-ce que c'est ? Et oui. Donc là, il y a quand même la plupart des associations qui sont présentes dans la maison des associations, qui sont présentes et qui, eux peuvent, je veux dire, vendre leur association à des gens qui ne connaissent pas et qui montrent un certain intérêt pour la chose.
Oui, et même ça, ils peuvent même se rencontrer entre associations et pourquoi pas...
Tout à fait, parce qu'il y a des associations qui cohabitent au même lieu, mais qui sont dans les domaines totalement différents.
Et ensemble, donc c'est encore fédérateur.
Ce genre de manifestation, donc c'est la première.
C'est la première.
C'est vraiment, vous avez utilisé le terme le plus important, c'est ça peut être fédérateur pour les associations elles-mêmes. Il y a des associations qui ont très peu de membres, des membres âgés, et qui vivent en fait de leur domaine qu'ils représentent, mais qui au-delà sont un petit peu, alors qu'effectivement il peut y avoir des interactions avec d'autres associations qui ne font pas forcément la même chose, mais qui ont les mêmes problématiques. On peut être le lien, effectivement, entre ces associations qui se sentent un peu seules et qui, en fait, pourraient l'être moins.
Bah, c'est bien parce que vous permettez, par exemple, à une association qui pourrait être lassée de toujours se battre, de ne pas pouvoir s'actualiser, vous êtes là pour les aider et en plus gratuitement.
Le fait qu'on est tous bénévoles, par la secrétaire, c'est effectivement ça. C'est vraiment, nous, on est l'exemple même du bénévole.
Oui. Bah, comme quoi ça existe encore en 2026, les gens qui s'investissent pour des causes.
Des gens qui s'investissent. Malheureusement, je le redis, pas assez. Et c'est l'ensemble de ce pas assez qui met en danger le monde associatif globalement et surtout le monde associatif qui tourne autour de la culture.
Bah, je vous souhaite que cette journée soit pérenne et qu'elle apporte plein de choses à plein de monde. Merci beaucoup pour cet entretien. Nous retrouvons devant l'association Colmarienne Sauvetage, Secourisme, Sport, Formation, Poste de Secours, avec Frédéric Timothée et un petit jeune homme, Ackerman Mathis. Donc, Timothée, quel est le rôle de votre association ?
Alors, le rôle de notre association, on a trois volets différents. On a un rôle sportif, on a un rôle formateur et on a un rôle de sécurité civile avec les postes de secours. Donc sur la partie sport, on va avoir tout ce qui est le sauvetage sportif, c'est un dérivé de la natation, si vous préférez, où on fait de l'enseignement jusqu'à de la compétition, avec championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde, encore actuellement, et peut-être 2032, Jeux Olympiques.
2032, c'est bientôt. Mais là, concrètement, vous êtes alors, je ne sais pas, dans les piscines, Colmar Plage, ou j'ai pas compris ?
Alors nous, notre rôle dans tout ça, on s'entraîne dans les piscines et à Colmar Plage pour les entraînements. Mais sur la partie formation, on va former plein de jeunes aux différents diplômes, le PS1 et le BNCSA notamment, pour qu'ils puissent, eux, aller surveiller dans les piscines et à Colmar Plage.
Ben justement, là, à côté de vous, vous avez un jeune homme, Mathis, c'est ça ? Tu veux surveiller les plages, c'est ça ? Quel âge as-tu ?
J'ai 15 ans et oui, j'aimerais surveiller les plages.
Ah, plus tard, en métier alors ?
Surtout en saisonnier, pendant l'été.
Et depuis quand es-tu dans cette association ?
Depuis 3 ans.
Et tu as déjà fait quoi ?
Effectivement, on peut taper dans les
mains. J'ai déjà appris à tracter un mannequin, à clipser un mannequin et c'est tout.
C'est déjà pas mal, tu peux sauver une vie. Et tu t'entraînes où ?
Au stade nautique de Colmar.
Et combien de fois par semaine ou par mois ?
3 fois par semaine.
Timothée, combien d'enfants avez-vous grossièrement à la cuillère ?
Si c'est pour la partie sportive, on a entre 35 et 40 jeunes actuellement dans l'association. Donc à partir de 7 ans jusqu'à 20 ans, on les inclut encore dans les jeunes. Après, on a quelques adultes aussi sur les créneaux, ça on en a une petite dizaine seulement. Et après, sur tout le volet opérationnel, on est une vingtaine de secouristes dans l'association. Et à la partie formation, bon, c'est beaucoup plus élevé parce que ça peut venir d'absolument partout avec les différentes formations.
Avez-vous un message à passer? Vous faites du recrutement?
On fait effectivement du recrutement pour venir apprendre et découvrir le sauvetage sportif, pour apprendre à nager aussi, se sauver soi et se sauver les autres. Sur la partie formation, on ne peut qu'inciter les gens à se former minimum au PSC parce que ça peut être utile dans la vie de tous les jours, aussi bien dans la rue que dans la famille. Malheureusement, ça prévient jamais. Et pour la partie opérationnelle, si vous êtes intéressé par ce genre de mission, par vouloir aider les autres, venez nous voir, venez passer vos formations, vos diplômes de secourisme pour venir faire des postes de secours et surveiller les autres.
Je suis rassurée parce que la dernière fois que j'ai rencontré Mathis, c'était au bord d'une piscine et j'ai su qu'il faisait dans la rue, il y avait 3 piscines. Alors c'est bon Mathis, quoi qu'il arrive, tu peux sauver une vie.
À peu près oui.
Sur ce, merci.
Et nous sommes avec François Plénier, le délégué départemental de France Parkinson. François Plénier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association France Parkinson?
Alors, l'association France Parkinson s'intéresse aux malades qui ont la maladie de Parkinson. Et les malades en question prennent des médicaments pour essayer de... Alors c'est une maladie qui ne se guérit pas. Donc on prend des médicaments pour contrôler les symptômes, mais ça ne va pas plus loin. Alors ce qu'on essaye de faire, et notamment dans la maison ici, à Colmar, c'est de proposer un accompagnement et des alternatives aux médicaments, quelque chose qui complète les médicaments. Et de façon étonnante, par exemple, on a monté du tennis de table, du ping-pong. Alors qu'on pourrait dire que les gens qui ont la maladie de Parkinson ne sont pas aptes à tenir une raquette et à répondre rapidement. Et en fait, ils le font. Et on a une dizaine de personnes qui sont malades et depuis des années et qui jouent au ping-pong de façon très efficace.
J'ai une question, la maladie de Parkinson, c'est par pic aussi, non? Il y a des fois où les personnes se sentent, peuvent marcher, et d'autres jours non.
Il y a des phases dans la maladie de Parkinson. Il y a, au début, c'est une maladie qui n'empêche pas de vivre correctement, à condition que les médicaments répondent comme il faut. On appelle ça la lune de miel. C'est la période où c'est relativement facile à vivre. Relativement. Hein. Par contre, effectivement, vous faites part de la deuxième période, qui est les périodes où on peut avoir des fluctuations. Et donc, il y a des moments où on ne peut plus rien faire. On est complètement bloqué. Et puis, des moments où ça va mieux. Donc, et ça, c'est assez violent. Et c'est assez difficile, à s'adapter à ce genre de choses. Et puis la troisième période, souvent, ça se termine dans un EHPAD ou dans une maison spécialisée où on peut plus pratiquement rien faire, quoi.
Donc les personnes qui font du ping-pong, elles sont encore...
Dans la première ou la deuxième période. Vous voyez ?
Est-ce que vous aidez... Non, vous, c'est uniquement les malades, vous aidez pas les aidants?
Si.
Ah, si,
Alors, on propose... On fait du ping-pong, mais on fait aussi du tango. Le tango avec la musique, ça permet de... Là, on a notre ami Jean-Marc qui en fait et qui peut témoigner sur le sujet. Ça libère, on entraîne aux mémoires du geste, etc. Donc c'est vraiment très sympa.
Alors, et quelles autres activités vous proposez dans le cadre de France Parkinson?
Alors on propose de la gymnastique. On a 8 lieux de gymnastique sur l'ensemble du département, donc où les gens font une heure de gymnastique toutes les semaines. Donc ça bouge pas, ça permet de bouger aussi beaucoup. On a des groupes de parole. On a des groupes où on se rend compte de façon sympathique, quoi, simplement pour échanger. Et vous le disiez, au niveau des aidants, tout ce qu'on peut faire, par exemple la gym, il n'y a rien qui empêche les aidants de faire de la gym en même temps que leur malade. Et il y a un avantage particulièrement, c'est que les aidants peuvent amener leur malade, peuvent conduire les malades à la gym et en profite en même temps. Quoi.
Pour terminer, ici à Colmar, vous savez le nombre de personnes qui sont dans l'association ?
Écoutez, on a dans le... Pas à Colmar même, mais moi je suis responsable du département, mais dans le Haut-Rhin, on a à peu près de 300 adresses. 300 adresses, c'est-à-dire que ça correspond grosso modo à 600 personnes. Il y a les aidants et les aidés. Donc voilà.
Alors en tout cas, merci beaucoup François Plaignier de nous avoir partagé ainsi, présenté surtout France Parkinson. On peut peut-être éventuellement donner les coordonnées également avec notamment le site internet, hein, c'est bien ça, et l'adresse mail également, l'adresse mail comité68@franceparkinson.fr pour tout contact avec l'ensemble des activités aussi. J'imagine qu'on peut retrouver, où on peut retrouver les activités que vous proposez sur France Parkinson.
Les activités, on les retrouve ici sur Colmar, hein, donc... On a trois activités toutes les semaines. C'est réparti autour de Mulhouse aussi et du sud du département, Saint-Louis. On a du tango qui se fait à Saint-Louis, on a à Mulhouse aussi. Donc on a dans le fichier que vous regardiez, on a pratiquement toutes les dates et les lieux. Et il suffit de prendre rendez-vous au téléphone avec ou aller voir sur place. Pour s'inscrire. Et alors, par contre, pour que les gens soient assurés, on demande de participer dans l'association France Parkinson, parce que nous les assurons pour toutes les activités.
Eh ben merci beaucoup pour toutes ces informations avec effectivement la brochure avec les activités 2026-2027 que vous pouvez retrouver de France Parkinson. Merci beaucoup François Plaignier.
On se retrouve là au Scrabble Club de Colmar. Nous sommes avec trois bénévoles. Pouvez-vous nous présenter votre association, s'il vous plaît ?
Et votre nom ?
Alors, je m'appelle Patrice Dondaine. L'association propose une activité Scrabble qui est le Scrabble duplicate, c'est-à-dire que tout le monde a le même tirage. Et c'est un logiciel qui détermine la meilleure solution après chaque coup. Donc, contrairement au Scrabble classique où on joue contre un adversaire, là, l'adversaire, c'est soi-même. Et donc, une partie dure environ 2 heures. Chacun marque son score en fonction de ce qu'il a trouvé. Tout le monde marque la solution de l'ordinateur et on passe au coup suivant. Et on continue comme ça jusqu'à la fin de la partie.
Et vous êtes combien à jouer, à vous retrouver ? Enfin déjà, combien êtes-vous dans l'association ?
Alors en fait, le club de Colmar réunit 25 membres cette année. Il faut savoir qu'on est affilié à la Fédération française de Scrabble. Donc en fait, c'est une organisation nationale. Et nous,
En fait, on se réunit tous les vendredis après-midi. Et en général, il y a entre 10 et 15 membres qui viennent pour une partie d'entraînement. C'est assez convivial, hein, même si effectivement chacun joue avec son propre jeu. Disons que ça permet de s'entraîner, sachant que certains d'entre nous jouent pour le loisir uniquement, mais aussi font de la compétition, puisque le fait que soit affilié à la Fédération française de Scrabble nous permet de participer à des tournois qui sont organisés au niveau national ou régional et qui permet ensuite de se mesurer à d'autres personnes, d'autres scrableurs, et ça développe un esprit de compétition. Et
la moyenne d'âge, à peu près, vous voyez la moyenne d'âge ?
Alors, pour ce qui concerne le club de Colmar, en fait, la moyenne d'âge n'est pas très jeune, disons. Sinon, au niveau national, il y a aussi des scrables scolaires. Mais ici, au club de Colmar, non, on est une population déjà, effectivement, plutôt de retraités, sachant qu'on s'entraîne le vendredi après-midi, donc ce qui ne permet pas à de nombreux actifs de venir participer aux entraînements. Mais voilà, le Scrabble, en fait, est un jeu qui perdure depuis quelques décennies et on continue à y jouer un peu partout dans le monde et surtout en France et en Alsace.
Mais moi, je me demandais ça à titre personnel, vu que les jeunes, ils lisent de moins en moins, ils sont plus... Mais c'est vrai qu'ils jouent aussi au Scrabble. Je me suis répondu toute seule, mais ils jouent aussi au Scrabble sur le téléphone, c'est vrai.
Non, mais c'est vrai. Effectivement, le développement du Scrabble par Internet fait que peut-être les adhésions se raréfient au sein des clubs. Mais il y a quand même pas mal de clubs en Alsace, pas celui de Colmar, qui organise quand même des compétitions ou des présentations spécifiquement aux scolaires pour essayer d'encourager les jeunes à continuer à jouer au jeu de mots et de lettres, tel qu'on le Scrabble qu'on a toujours connu. Voilà. Et sinon, le club en fait date de 1977.
Ah oui.
Voilà. Oui, donc quand même, hein, une belle histoire, un bel historique aussi du Scrabble. C'est vrai que le Scrabble Go, la fameuse application, il y en a beaucoup hein, qui jouent, mais j'imagine que c'est aussi très convivial quand vous jouez aussi entre vous.
Alors vous avez cité Scrabble Go, effectivement, qui est un logiciel public. Il faut savoir qu'en adhérant au club de Colmar et donc à la Fédération française de Scrabble, vous bénéficiez des logiciels développés par la Fédération, donc sans pub, qui vous permet de jouer en duplicate, mais aussi en classique. La version classique, telle qu'on le connaît, en fait, quand on joue dans le cercle familial, existe aussi au niveau logiciel et au niveau tournoi organisé par la Fédé.
Et est-ce que vous organisez une journée porte ouverte ou je ne sais quoi ?
Alors, en fait, ici à la Maison des Associations, a priori, c'est la première fois en fait que ce type de journée est organisée. Donc, effectivement, ça nous permet de recevoir du public et de présenter un petit peu le club et la façon dont on joue. Et sinon, pas chaque année, mais le plus souvent, on participe aussi à la rentrée des sports en septembre, qui nous permet de présenter le club. Mais sinon, non, on n'organise pas spécifiquement pour le club de journée découverte, non. Par contre, ce que l'on propose aux personnes intéressées, c'est comme on se réunit tous les vendredis après-midi pour une partie d'entraînement, de venir assister une fois, deux fois, trois fois à une partie d'entraînement. On prête un jeu, ce qui fait que les personnes intéressées peuvent découvrir la façon dont on joue avant de décider d'adhérer ou pas au club.
Et ce qui est bien, c'est que n'importe quel niveau peut venir, vu qu'il joue tout seul. Enfin, il ne va pas ne pas faire avancer quelqu'un.
Exactement, effectivement, le fait de jouer en duplicate permet de jouer pour soi, de se mesurer en fait au top de la partie, puisqu'en fait, on retient toujours le top du mot. Et
Novice va apprendre, lui.
Exactement, va progresser.
Ça permet aussi peut-être d'enrichir son vocabulaire ou de découvrir aussi beaucoup de choses de la langue française quand vous jouez au Scrabble de cette manière-là.
Oui, on apprend beaucoup de mots et comment expliquer. En fait, le jeu est fait de telle sorte que parfois c'est pas le plus long mot qui fera le plus de points. Parfois, c'est le plus petit mot qui fera le plus de points, quoi.
Ouais, avec les lettres rares.
J'en ai un qui m'est resté dans la tête. Gazeuse. Pas mal, hein ?
De l'eau.
Oui, c'est plus court, mais ça fait moins de points.
Et les nouveaux mots, est-ce que vous avez un dictionnaire des nouveaux mots ?
Oui, effectivement, en fait, le Scrabble est un jeu édité par un éditeur privé, hein, et donc, en fin de compte, il a son propre dictionnaire. Il faut savoir, en fait, que Mattel, hein, l'éditeur de Scrabble, retient des mots... la plupart des mots de la langue française, effectivement, qu'on trouve dans le dictionnaire, mais introduit également des mots, je ne sais pas s'ils sont tous dans le dictionnaire, de d'autres pays francophones. On a des mots suisses, des mots canadiens, etc., qui sont admis au Scrabble. Et Mattel revoit tous les 4 ans à peu près la liste des mots en fait, qui sont admis pour le jeu et rejette parfois, en fait, enfin, interdit des mots qui sont dans le vocabulaire français mais qui ne sont pas admis au Scrabble.
Notamment l'argot, non ?
Pas forcément l'argot, mais on va dire plutôt des mots qui sont un peu trop à connotation
péjorative.
Voilà.
Je vous remercie. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ?
Et vous recrutez en permanence, donc, si possible, de nouveaux bénévoles ou de nouvelles personnes ?
Alors, en termes de bénévoles, en fait, on est une association, en fait, où on... Le bénévolat, en fait, consiste surtout à accepter d'arbitrer la partie plutôt que de la jouer, ou à participer, en fait, à l'organisation de tournois, par exemple, en aidant à préparer les salles, en ramassant les billets, puisqu'en fait, on rend des billets où on a noté le nous et les points, le bénévolat, et bien sûr, de s'occuper du club en faisant partie du comité directeur. Sinon, on recrute plutôt des adhérents, enfin, des membres, en fait, qui veulent jouer, et qui sont prêts aussi, bien sûr, à faire de temps en temps, donner de leur temps pour ne pas jouer, mais participer en fait, à l'organisation des jeux.
Et les rencontres les vendredis après-midi se font où ? À la maison des associations de Colmar ?
Exactement dans la salle où nous sommes actuellement, donc le vendredi à partir de 14h30, et une partie dure à peu près 2 heures.
Eh ben, merci beaucoup à tout le monde d'avoir accepté cette interview pour le Scrabble Go, le Scrabble Club de Colmar. Le lapsus à ne pas faire.
Nous nous retrouvons devant l'association des philatélistes de Colmar qui vont nous présenter leur association. Et donc il y a le président et monsieur le secrétaire. Quel est votre nom, s'il vous plaît ?
Jean Lampert.
Et vous, monsieur ?
André Cressac.
D'accord. Alors, depuis quand votre association existe-t-elle ?
La toute première fois qu'on en a parlé, c'était en 1897. C'était du temps qu'on était allemand, quoi.
L'association à Colmar, alors ça a été la première fois ?
Oui.
Le Briefmarkenverein.
Mais vous ?
Nous. Moi, je me suis inscrit en 1970.
Et vous, monsieur ?
1955.
Ça en fait des timbres. Et combien de bénévoles à peu près avez-vous dans l'association ?
70. Il y a 70 membres cotisants.
Vous vous retrouvez donc ici dans les lieux ?
Oui, au premier étage, salle 1.
Salle 1.
Le premier samedi du mois.
Et alors,
C'est une réunion d'échange.
D'échange sur les timbres que vous avez récoltés.
Oui, qu'on montre ou qu'on va échanger avec. D'autres timbres.
Et comme on est des passionnés, on a plaisir à montrer aux copains, regarde ce que j'ai trouvé. Et c'est ça qui est intéressant.
Et alors là, est-ce qu'il y a des femmes ou vous êtes une majorité d'hommes ?
Bon, une majorité d'hommes, mais il y a au moins 5 à 6 dames.
5 à 6 dames quand même. Et est-ce que vous faites des expositions, une journée philatélie ?
On fait une exposition annuelle. Cette année, c'était au Cercle Saint-Martin, au début du mois dernier.
Donc, l'année prochaine, n'hésitez pas à venir à la radio pour en parler et faire la pub. Oui. Et il y avait du monde ? Moi, je sais que le timbre, c'est quelque chose qui se transmet, limite, dans la famille, non ? Vous avez...
C'est le souhait de tous les collectionneurs, de trouver un fils ou un petit-fils ou une petite-fille qui s'y intéresse. C'est ça qui est formidable, quand on peut transmettre.
Effectivement. Et est-ce que vous avez un message à passer ou est-ce que vous recrutez des bénévoles ou...
Bien sûr, vous êtes tous les bienvenus.
Et à combien s'élève la cotisation maintenant si j'aime les timbres et j'ai envie de participer ?
C'est 28 euros.
À l'année ?
À l'année.
Et donc vous vous retrouvez une fois par semaine, c'est ça ?
Une fois par mois,
le
premier samedi du mois.
Ah bah oui, parce qu'il faut avoir le temps de collecter les timbres.
Et les gens sortent moins le soir. On a dû arrêter les réunions de soirée parce qu'il y avait moins de membres qui venaient.
Okay. Et la moyenne d'âge à peu près ? Est-ce qu'il y a des jeunes ou...
Parmi les plus jeunes.
Des jeunes retraités.
Des jeunes retraités.
On n'a plus de scolaires.
Je vous remercie pour cette interview. Merci beaucoup et longue vie au timbre.
Et nous sommes actuellement donc à la maison des associations, dans la salle de répétition de l'association Attaque avec Philippe. Bonjour Philippe.
Bonjour Yann.
Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Attaque ?
Alors la TAC, Association Théâtre Animation Colmar, créée en 1981 par Paul Kiefer, au départ une troupe de théâtre de marionnettes, qui a viré théâtre au sens le plus théâtral du terme, donc qui existe depuis 81, je le disais. Et donc là, vous êtes dans notre salle de répétition, la Maison des Associations. C'est là que nous travaillons tous les mercredis de 20h à 22h30 à peu près, et nous préparons nos spectacles annuels avec entrain, sérieux et bonne humeur.
Et en parlant de spectacle annuel, je crois que la date de la prochaine pièce approche, hein, n'est-ce pas?
Mais absolument, plus que, si mes comptes sont exacts, plus que 131 dodo.
C'est précis, c'est très précis.
Puisque nous jouons donc Politique Friction, une pièce que j'ai eu l'honneur de coécrire avec Alexandre Schumacher. Et nous jouerons à la salle Saint-Antoine du 22 au 25 octobre. Et ensuite à la salle des Fêtes-Vire de Orbourg-Vire les 28 et 29 novembre.
Et donc vous répétez activement depuis combien de temps alors cette nouvelle pièce de théâtre, et combien serez-vous sur scène?
Alors nous répétons depuis janvier à peu près, et nous sommes 9 sur scène, 3 filles, et donc par voie de conséquence arithmétique, 6 garçons.
Jusqu'à présent, oui, il y a 3 filles, normalement sur 9 il y a 6 garçons, effectivement. Et comment se passent les répétitions alors de cette pièce de théâtre? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu en avant-première un petit résumé de cette pièce, de quoi ça va parler en quelques mots?
Alors un petit résumé, oui, on va essayer. Petit résumé, c'est une pièce, donc cette année on est parti d'une page blanche. Donc on a coécrit avec Alex. Ça se passe, alors ça s'appelle Politique Friction, donc forcément on se dit que bon, il y a un peu de politique.
Et de la friction.
Et de la friction. C'est pas une pièce sur la politique du tout, hein. On n'est pas dans un spectacle de chansonnier. En gros, c'est la première journée d'une présidente de la République. Elle prend un petit peu possession des lieux et du personnel autour. Attaché de presse, son mari, bon, et forcément le majordome, et puis des histoires un petit peu olé olé. Je ne vous dis que ça.
Et évidemment, toute intervention de cette pièce quelques mois avant une prochaine élection présidentielle n'est que pure coïncidence.
Alors, c'est une pure coïncidence. C'est pas notre faute si les autres là-haut à Paris, ils ont choisi la même date que nous. Hein ? D'accord ?
Donc, quelques mois après, vous jouez en 2026. Hein.
Donc on joue en 2026. Après, on n'est pas à l'abri de recommencer l'année prochaine. Hein. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment le hasard. Et la pièce n'a vraiment... C'est pas de la politique, on ne va pas parler de politique. Non, on n'a pas le niveau pour.
C'est une comédie.
C'est une comédie. Oui, c'est une comédie. On a déjà quelques fous rires à notre actif en répétition, ce qui en général est plutôt bon signe. C'est une pièce qu'on répète pas mal, je trouve que ça tourne déjà bien. C'est une pièce plutôt courte par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Là, on a décidé de resserrer un peu parce que c'est vrai que ça marche bien. On est assez, assez satisfait. Je pense qu'Alexandre, planqué derrière son téléphone, est aussi satisfait de nous.
Et quel rôle allez-vous jouer, vous, précisément, sur cette pièce?
Moi-même, personnellement, je joue le mari de la présidente de la République.
Évidemment.
Voilà.
Oui. Voilà. Évidemment.
Je suis monsieur la première dame du palais.
Et ben, il en faut bien un ou une, en l'occurrence, c'est un.
Et voilà.
Et ben, on ira voir ça à la salle Saint-Antoine du 22 au 25 octobre, hein, c'est bien ça. Et à Orbourg-Vire aussi, vous
et
nous
Orbourg-Vire,
avez
dit. Orbourg-Vire le 28 et 29 novembre. Et puis, de toute façon, Instagram, Facebook, et puis on va communiquer comme... Là, on va reprendre les choses un petit peu. Parce que ça approche. Ça approche.
Ça passe vite.
Mon ami, ça approche. Et oui, et oui.
Et puis, qui sait, aussi dans les studios de RDL très bientôt.
Mais nous le souhaitons. D'ailleurs, il faudra que je vous contacte à ce sujet afin que nous puissions prendre rendez-vous.
Mais avec grand plaisir, ce sera fait. Vous retrouverez donc, tant mieux, ça m'arrange, l'association Attaque dans quelques mois dans les studios de RDL. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir
merci
été avec
Yann,
nous.
Merci, merci RDL de nous suivre aussi avec tant de gentillesse. Merci.
Mais avec grand plaisir, merci.
Merci à toutes les associations présentes et tous les bénévoles qui ont bien voulu participer à ces mini-interviews. Sur ce, Yann, Juste et moi, on vous souhaite une bonne journée.